Merci à tous d'être là. Donc, je m'appelle Muriel de Paris. Je suis actuellement en deuxième année de thèse, accueillie à l'École du paysage de Blois. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des travaux un peu antérieurs à ma thèse, puisque je vais vous parler de la distribution des espèces exotiques envahissantes à Blois, qui était le sujet de mon stage de M2, que j'avais fait déjà à l'époque sous l'encadrement de Sébastien Bontou et Nicolas Leguet. Donc, comme vous le savez sans aucun doute, les villes sont des lieux où la biodiversité est assez restreinte par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans les milieux naturels. Et la ville, vis-à-vis de sa biodiversité, souffre de l'homogénéisation biotique sur les espèces et sur leurs traits. Et la biodiversité urbaine est aussi une biodiversité qui est relativement riche en espèces exotiques envahissantes. Donc, contrairement à ce que Pierre-Yves Georges vient de nous présenter, moi, quand je définis, quand je me place, je parle d'espèces exotiques envahissantes, je me place dans la définition qui a été donnée par Richardson et collaborateurs en 2000, qui veut que une plante exotique envahissante, c'est une espèce dont la présence est liée à l'homme et qui va produire une grande quantité de descendants, rapidement relativement à sa fréquence de reproduction et rapidement, relativement loin du plan parent par rapport à ses capacités de dispersion. Donc, pour définir ce qu'est une espèce ou une plante exotique envahissante, il n'y a pas ici de notion d'impact sur les activités économiques ou sur la biodiversité. Ce qui veut dire que ces espèces peuvent parfois avoir un impact négatif sur cette biodiversité, mais également en ville, sur la santé des urbains ou sur les infrastructures. De plus, les villes peuvent être des sources d'invasion pour les milieux naturels environnants, puisqu'elles concentrent une grande quantité d'espèces exotiques envahissantes. Et c'est notamment pour ces deux raisons qu'on va s'intéresser et s'interroger sur les paramètres qui peuvent expliquer la distribution spatiale de ces plantes exotiques envahissantes en ville. Donc, pour pouvoir s'intéresser à ces paramètres explicatifs, c'est important de s'intéresser et de bien définir l'échelle à laquelle on se place. Donc, par exemple, si vous étudiez la distribution d'une espèce à une grande échelle, à une échelle globale, comme un continent ou un pays, ce sont principalement des facteurs macroscopiques auxquels on s'attend qu'ils aient un impact sur cette distribution, donc le climat, la région biogéographique, les grandes classes d'occupation du sol. On peut aussi, à contrario, étudier ces distributions sur des échelles beaucoup plus locales, l'échelle d'une parcelle, l'échelle d'un habitat. Et dans ce cas, ce sont plutôt des facteurs locaux auxquels on s'attend à ce qu'il y ait des impacts, des paramètres biotiques ou abiotiques. Et moi, je vais me placer à une échelle intermédiaire, donc l'échelle de la ville, une ville moyenne, puisque j'étudie Blois. Et à cette échelle du milieu urbain, à cette échelle paysagère, je m'attends à ce que mes paramètres qui impactent principalement ma distribution, ce soient plutôt des paramètres relatifs à l'imperméabilisation du sol, ou encore à l'entretien, la gestion ou à l'usage que les habitants ont des quartiers de cette ville. Un dernier paramètre que je vais prendre en compte, ça va être la dispersion, donc que vous voyez ici, qui est un paramètre qui est plutôt transversal à ces différentes échelles et qui permet d'expliquer en partie comment est-ce que les espèces peuvent arriver ou sortir des villes. Donc je vous expliquerai juste après comment est-ce que je prends en compte ces paramètres. Une autre question qu'on s'est posée également, c'était comment est-ce qu'il est possible de décrire la ville pour comprendre cette distribution? Donc, la ville, c'est une mosaïque de différents espaces, d'usages et de formes différents qui sont connectés entre eux principalement par des voies de communication. Donc, ça va être des espaces comme ici en haut à gauche, des résidentiels individuels pavillonnaires, différents types à droite ici de résidentiels collectifs qui peuvent être très imperméabilisés ou au contraire être en cours de recolonisation par des espèces spontanées. On peut aussi rencontrer des quartiers industriels, des parcs ou encore des zones vacantes, des réserves foncières. Ces différents quartiers, ces différents usages de la ville, ils sont reliés entre eux par un réseau viaire, donc notamment des rues. Donc ici, vous avez une rue du centre-ville de Blois, qui est une rue uniquement piétonne, qui a été fortement végétalisée par les habitants. Et ici, juste à côté, vous avez une rue qui n'est pas très loin géographiquement de la première, qui, elle, est une voie carrossable, fortement imperméabilisée, avec très peu de végétation en dehors de la végétation plantée. Donc, on voit qu'il y a une grande diversité d'usages, de gestion des plantes en fonction des quartiers. on s'attend à ce que ça puisse avoir un impact sur notre distribution. Et donc, pour décrire au mieux cette ville, on a décidé d'utiliser une grille. Donc, on a ici la photo aérienne de Blois et vous voyez qu'on a utilisé ici la grille qui est de 2200 mailles, chacune faisant 100 mètres sur 100 mètres. Et à l'intérieur de cette grille, on a caractérisé nos différentes variables explicatives. Donc, on avait deux grands groupes de variables explicatives. Le premier, ce sont les variables relatives, comme je vous le disais tout à l'heure, à la dispersion. Donc, on a la surface en route ou en voie ferrée, et également la distance entre le centre de la maille et la route ou la voie ferrée la plus proche. Donc, ce sont des paramètres donc, de dispersion, je suppose qu'ils vont avoir un impact sur notre distribution de nos espèces. Et ici, à gauche, vous avez la carte de la surface en route secondaire à Blois. Et ensuite, j'ai aussi des variables relatives à l'imperméabilisation du sol, en supposant que plus le sol est imperméabilisé, moins il y a de sol disponible, donc d'habitat disponible pour que mes plantes s'installent. Et enfin, ce que je vous disais à l'instant, les usages des différents quartiers. Donc, l'hypothèse ici, c'est qu'à l'échelle de la maille de 100 mètres sur 100 mètres, la gestion qui peut être faite de ce quartier, de cette maille, elle est uniforme à cette échelle et elle va avoir un impact sur la présence de mon espèce. C'est-à-dire, au sein de la maille, je suppose que le désherbage, par exemple, spécifique des espèces, ou au contraire la plantation, ou encore la fréquence de ponte, vont être des paramètres qui sont uniformes et qui vont impacter la distribution de mon espèce. Donc, une fois que ces variables ont été caractérisées avec un gros travail de SIG, il a fallu se rendre sur place et explorer l'intégralité des 2200 mailles. Donc, Nicolas, Sébastien et moi, on a fait ça au printemps-été 2018 et on a localisé l'entièreté des individus de cinq espèces exotiques envahissantes, qui sont celles-ci. Donc, on a choisi ces espèces en particulier, bon, déjà parce qu'elles étaient communes à Blois, parce qu'elles sont connues pour être à différents stades d'invasion. Dans le centre-Val de Loire et à Blois également. Aussi parce qu'elles présentent des caractères écologiques différents, c'est-à-dire qu'elles ont des exigences en termes de niches écologiques diversifiées. Et elles ont aussi des capacités et en tout cas des modes de dispersion qui peuvent également être différents. Et donc, on souhaitait voir si ces espèces exotiques envahissantes, aux caractères biologiques différents, pouvaient réagir de manière différenciée à nos variables. Et la dernière raison pour laquelle on a étudié en particulier ces espèces, c'est qu'elles sont facilement repérables et identifiables, même de loin, parce qu'en ville, on n'a pas forcément accès aux individus eux-mêmes. Donc, je vais vous présenter quelques résultats. Donc, je vais commencer par vous parler d'Acer negundo. Donc, c'est cet arbre exotique envahissant que vous voyez ici en bas à gauche, qui est un arbre qu'on rencontre la plupart du temps dans des milieux. Dans des milieux humides. Donc, en fait, ici, vous avez la carte de répartition de cette espèce à Blois. Et quand on regarde la carte, a priori comme ça, on voit globalement deux grands types de colonisation de la ville. Donc, dans un premier temps, on a toutes ces mailles ici, le long de la Loire. Et donc là, on s'attend plutôt à ce que ce soit, comme je vous le disais, l'habitat de l'espèce, sa niche écologique qui soit fondamentale pour comprendre pourquoi ces espèces sont ici. Et on a ici dans la ville des patchs d'occupation par Acer negundo qui vont plutôt, a priori, être liés à des utilisations de cette espèce par les habitants de la ville. Donc, c'est-à-dire concrètement des plantations ici dans des résidentiels collectifs, ici en alignement d'arbres sur des avenues ou encore ici en résidentiel individuel. Et donc, pour essayer de résoudre tout ça un peu plus statistiquement parlant qu'avec mon interprétation de ma grille, j'ai fait des modèles linéaires généralisés. Donc, mes modèles sur Acer negundo, ils expliquent 25% de ma variance. Et globalement, qu'est-ce que j'ai comme résultat? J'ai quelques variables de dispersion qui ressortent comme significatives, comme par exemple les voies ferrées ou les routes secondaires. Mais ces variables, elles ont une part de variance expliquée assez faible, puisqu'elles expliquent que 5% de ma variance. Et à contrario, j'ai une variable d'usage qui, elle, explique jusqu'à 70%, enfin au moins 70% de ma variance, avec principalement, et eh bien c'est ce que je vous disais, l'usage des rives, en fait, et l'usage résidentiel individuel qui ressortent particulièrement. Et en plus de ça, j'ai cette variable usage qui, sa part de variance expliquée, augmente au fur et à mesure que j'affine ma description en usage. Parce que j'ai utilisé pour décrire ma ville trois grandes types de classification en usage qui sont celles-ci. Donc, ma classification la moins fine, c'est celle-ci. Elle représente six classes principales. Et en fait, je l'ai ensuite découpée pour passer à une deuxième classification, donc globalement qui est ici en neuf classes. Donc, ce que j'ai fait globalement ici, c'est que j'ai pris ici les mailles en marron clair, qui sont des mailles ici considérées comme non urbaines, et je les aurais découpées en zone agricole ou en zone de forêt. Puis, j'ai fait la même chose pour ce que j'appelais ici des parcs urbains, et enfin des espaces verts que j'ai redécoupés ici en rives, en zones vacantes ou en grands parcs urbains. Et j'ai encore une troisième classification où pour passer ici, donc là je passe de 9 classes à 19 classes. Et ce que je fais ici, c'est qu'en fait, je vais prendre mes résidentiels individuels qui sont ici, toutes les mailles en rose, et mes mailles d'industriel en marron, et je vais le sous-diviser en classes d'âge, d'après la décennie de construction du premier bâtiment dans la maille, ce qui me permet de prendre en compte un aspect dynamique temporel de la ville, ce qui est aussi intéressant. Et évidemment, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, comme c'est ma classification fine en 19 classes qui se rapproche le plus de la morphologie réelle de la ville, puisque la ville n'est pas un espace structuré en maille, hein, mais en affinant, je m'approche de cette morphologie, eh bien, j'augmente mon caractère explicatif de mes usages. Et c'est aussi un résultat qui est intéressant, donc cette diversification des classifications en usage sur d'autres espèces. Donc, si on parle par exemple de Buddleia davidi, qui est cette espèce-là, dont vous voyez ici la carte de répartition, qui est un peu moins simple à interpréter a priori que celle d'Acernigundo. Donc, j'ai aussi pour cette espèce quelques paramètres de dispersion qui ressortent avec des variances expliquées un peu différentes. Par exemple, j'ai la route secondaire qui va expliquer ici jusqu'à 30% de ma variance. Mais on reste quand même sur une variance expliquée très forte pour les usages qui varie de 60 à 70%. Et quand je gratte un peu, que je fais des comparaisons deux à deux de mes types d'usages, ce que je me rends compte, c'est que pour ma classification middle, qui est donc la classification en 9 classes, ma probabilité de présence de mon espèce dans le résidentiel collectif, très bien, elle ressort comme toujours significativement supérieure à celle dans les autres usages, alors que si se passe à fine, et ben cet effet du résidentiel collectif disparaît complètement, et ce sont plutôt les résidentiels individuels qui ressortent comme ayant un effet important. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de la finesse de la description urbaine, un même usage va expliquer ou non la présence d'une espèce exotique envahissante. Du coup, qu'est-ce que je conclue un peu de ce que je vous ai présenté aujourd'hui? Dans un premier temps, c'est qu'on a un impact des variables de dispersion qui est relativement faible par rapport aux autres variables que je peux mettre dans mon modèle, puisque ce sont les usages qui sont les variables les plus importantes, même si ce sont des variables qui sont assez rarement prises en compte dans la littérature, que l'échelle de description de la ville est aussi très importante pour comprendre au mieux les paramètres qui expliquent cette distribution, et que la part de la distribution expliquée reste assez faible. Et l'ensemble de ces conclusions, elles me poussent à dire qu'il y a encore un grand nombre de mécanismes qui ne sont pas résolus dans la compréhension des dynamiques de distribution des espèces exotiques envahissantes en ville, et notamment qu'il y a encore actuellement une place pour une nouvelle façon de décrire la ville qui serait au plus proche de sa structure. Et c'est une bonne nouvelle puisque c'est ce que je fais actuellement dans le cadre de ma thèse. Voilà, j'en ai terminé. Merci.